Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. Imaginez-moi. Je suis seule, dans l'océan, et je suis en train de couler. Je ne sais même plus comment je suis arrivée là. Une chose est certaine, j'arrive au bout de mes forces. Mon esprit est embrouillé, je ne parviens plus à nager. Je sais au plus profond de moi que je n'y arriverai pas. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je sais que si personne ne vient maintenant me sauver, je mourrai. Je n'ai même plus envie de me battre. C'est trop difficile. Mais soudain, j'aperçois un bateau. Je me dis, ça y est, on va m'aider, on va me sauver. Avec quelqu'un, je peux y arriver. Je crie à l'aide, remarque qu'un homme sur le bateau m'a vu. Le bateau s'approche. L'homme sur le bateau m'affirme que tout va bien, qu'on va me sortir de là bientôt. Il me lance une bouée et me dit « Attrape-la et tiens bon !» Alors je m'agrippe à ce secours. Je fais comme mon sauveteur me le demande. J'obéis et j'ai confiance que je vais être sauvée. Enfin, je sors de ces eaux qui m'ont presque engloutie. Si je n'avais pas obéi aux ordres du sauveteur, je serais toujours dans l'eau. Et pourtant, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai attrapé la bouée que, à la sortie de l'eau, je vais attendre quelques louanges pour mes promesses. Toute la gloire revient à mon sauveur. La foi en Dieu, c'est la même chose. C'est la confiance que l'Éternel est là, avec nous, et qu'il va nous sauver de la mort. L'espérance qu'il va nous garder malgré les circonstances qu'on peut traverser. L'assurance que ce qu'il nous a promis de faire, il le fera. Cependant, la foi implique que nous obéissions à notre sauveur. Si moi, qui suis à la mer, m'étais dit « C'est bon, il va me sortir de là », mais avait refusé de suivre ses instructions à propos d'attraper la bouée et de tenir jusqu'au bout, j'aurais coulé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage, enfin on va lire ensemble un passage biblique. On va d'abord lire plus globalement et ensuite se concentrer sur un passage. Donc mon passage sera Jacques 2 du verset 20 au verset 26, mais nous allons d'abord lire du verset 14 au verset 26. Alors, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans cette lettre, je vais d'abord vous donner les informations de base sur cette lettre, qui est l'auteur, à qui il s'adresse, à quelle date. Alors dans cette lettre, c'est Jacques, comme le titre de l'épître le dit, c'est Jacques qui parle, mais qui est ce Jacques? C'est pas certain, on pense que c'est le frère de Jésus. Il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et ces 12 tribus représentent les chrétiens, en particulier ceux d'origine juive, qui sont dispersés certainement à cause de la persécution. Pour la date, cette épître est une des premières épîtres qui fait partie du Nouveau Testament. Et quel est le but de cette lettre? Dans l'ensemble de sa lettre, on peut remarquer que Jacques encourage les chrétiens à mettre en pratique la parole, à vivre leur foi par des actes, malgré les tentations et les épreuves dans le monde. Il insiste sur le fait qu'une foi uniquement intellectuelle ne suffit pas. Jacques explique en détail comment la foi devrait se manifester par une attitude, par des paroles, par des désirs, par des actes, des œuvres irréprochables. Il est important de savoir que les actes ne se substituent pas à la foi. C'est bien la foi qui sauve, Paul le dit souvent dans ses épîtres. Et c'est en aucun cas nos actions, aussi bonnes ou pieuses, soient-elles qui peuvent nous sauver. Mais Jacques ici s'adresse à des destinataires différents que Paul, et il insiste sur le fait qu'une foi qui ne se manifeste pas par des œuvres est morte. Les œuvres confirment la foi, elles montrent que notre engagement, notre foi envers Dieu est réelle. Alors le Nouveau Testament nous affirme sans cesse qu'il faut avoir la foi, que c'est ça qui sauve. Mais ça veut dire quoi d'avoir la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est un sujet qui me passionne et je pense que je vais en apprendre encore plus et je me réjouis d'en apprendre encore plus tout au long de ma vie. Mais Dieu en tout cas nous donne des exemples dans sa parole comme pour beaucoup d'autres sujets et il nous donne en particulier, il nous enseigne ce thème à l'aide de modèles. Il nous a donné le modèle de Jésus, mais il nous a aussi donné d'autres exemples. Et encore aujourd'hui, en dehors de sa parole, il nous donne des modèles autour de nous. Et n'ayons pas honte de suivre l'exemple des gens qui sont autour de nous. Ne soyons pas fiers, mais prenons l'exemple les uns des autres. N'hésitons pas à recopier ce que quelqu'un fait de bien pour finalement le faire sien. Je vous invite donc à plonger avec moi en détail dans les deux exemples que Jacques donne, dans Jacques 2. Il donne l'exemple de Abraham et de Rahab. Commençons par Abraham. Donc, Jacques 2, du verset 20 à 23, dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Alors pour vous faire bien rentrer dans cette histoire, je vais vous rappeler un peu quelle était l'histoire d'Abraham. Avant d'avoir un enfant, Abraham avait reçu la promesse de Dieu qu'il aurait une nombreuse descendance. Il y a cru et a eu un enfant avec sa femme Sarah, alors qu'ils étaient déjà très avancés en âge. Ils ont appelé leur fils Isaac. Et Dieu a bien expliqué à Abraham que c'est d'Isaac que s'accomplirait la promesse de descendance, pas d'Ismaël, le fils de la servante Agar. Or, de nombreuses années passent, Isaac a désormais 12 ans, et Dieu demande soudainement à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, pourtant le fils de la promesse. Et Abraham y va. Il va jusqu'au mont Morija, lie son fils sur l'autel, s'apprête à le tuer, quand Dieu intervient et lui montre un bélier qu'il va pouvoir sacrifier. Quand on écoute cette histoire, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Genèse 22, du verset 1 au 19, quand on lit cette histoire, on a le droit de se poser des questions. De se demander qu'est-ce qui a pu motiver Abraham d'obéir à un tel ordre. En effet, il aurait très bien pu raisonner intellectuellement. Il aurait pu se dire, mais ça n'a pas de sens. Cela anéantirait la promesse. Dieu ne peut pas me demander ça. Il aurait pu également se convaincre par les sentiments de son cœur. J'aime trop mon fils. Je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas. Il aurait pu montrer sa désapprobation par des plaintes. Tu es trop dur, Seigneur. Pourquoi me demandes-tu cela ? Mais il ne l'a pas fait. Alors comment est-il arrivé à faire un tel acte de foi ? Qu'est-ce qui a pu l'aider à faire cet acte ? Quand on connaît l'histoire d'Abraham, on sait que Abraham connaissait Dieu. Il l'avait déjà vu à l'œuvre. En effet, Isaac était un miracle pour Abraham. Biologiquement, lui et Sarah n'auraient pas pu avoir cet enfant. Abraham était conscient que ce fils lui venait directement de Dieu et qu'il était la preuve que Dieu réalise ses promesses. Ce fils inattendu est une preuve pour Abraham que Dieu est puissant, que Dieu fait tout ce qu'il veut, que rien ne lui est impossible et qu'il tient ses promesses. Qu'est-ce qui a pu encore l'aider ? Abraham était conscient qu'il avait reçu Isaac directement de Dieu. Isaac appartenait premièrement à Dieu. puisqu'Abraham n'avait pas mérité ou n'avait pas pu, par ses propres moyens, engendrer un fils, Isaac était un cadeau de la part de Dieu. Donc Dieu a tous les droits de vouloir récupérer quelque chose qui est à lui. Et pour nous alors, qu'est-ce qui peut nous aider à vivre une foi active ? Comme pour l'exemple d'Abraham, de voir et de se rappeler l'action puissante de Dieu nous aide à agir avec foi. Par exemple, Dieu, Jésus, a dit à ses disciples, a promis à ses disciples que l'on ferait des choses plus grandes que lui. C'est une promesse. Et quand on voit les miracles, quand on voit Dieu agir, quand on voit Dieu guérir puissamment, ça nous encourage à y aller, à agir. Malheureusement, si on ne se met pas en mouvement, si on ne commence pas à agir, on ne fera jamais des choses plus grandes que Jésus. Qu'est-ce qui peut aussi nous aider ? D'être conscient que tout ce que nous possédons est premièrement à Dieu. Nos possessions, nos talents, nos dons, tout ce que nous avons est à Dieu. Plus nous sommes conscients que ce que nous avons vient de Dieu, plus nous le remettons à Dieu facilement. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Abraham n'avait pas manifesté sa foi par des actes ? Juste après qu'Abraham ait obéi à Dieu et presque sacrifié son fils, l'ange lui dit, dans Genèse 22, versets 15 à 18, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu avait déjà donné cette promesse avant la naissance d'Isaac. Dans Genèse 12, du verset 1 à 3, on peut lire cette promesse de Dieu, qu'Abraham aura une nombreuse descendance et que sa postérité bénira la terre entière. Mais pourtant, ici, l'ange de l'Éternel dit que c'est parce qu'Abraham a obéi qu'il accomplira sa promesse. Si Abraham avait essayé d'accomplir la promesse par ses propres moyens, en essayant de sauver à tout prix son fils, il n'aurait pas reçu l'accomplissement de sa promesse. Et nous, pouvons-nous empêcher Dieu d'accomplir ses promesses ? Alors je crois que Dieu est puissant et que rien ne l'empêche de faire quoi qu'il veuille. Mais je crois aussi que notre foi est un engagement. Allons-nous faire ce que nous nous sommes engagés à faire en lui donnant notre vie et en le prenant pour Seigneur ? Toute alliance est rompue du moment que l'un de ses membres ne respecte pas sa part. Dieu respectera toujours la sienne. Et nous ? Donc oui, je pense que nous pouvons empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. Je vais vous donner l'exemple d'un petit enfant qui est dans une piscine et qui commence à couler. Le maître nageur saute à l'eau et vient le sauver et lui dit « Arrête de nager, sinon je peux pas t'aider, enfin arrête de nager, je m'occupe de toi. » Si l'enfant continue à nager, le maître nageur ne peut pas faire son travail, ne peut pas le sauver, ne peut pas accomplir ce qu'il veut accomplir. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est quand nous lui obéissons avec foi qu'il peut faire sa part, accomplir toutes ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses, mais il nous demande d'être fidèles aux nôtres. Jacques rappelle également qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. Alors dans Jean 15, du verset 14 à 15, Jésus dit à ses disciples « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. » parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. On a peut-être parfois du mal à croire être les amis de Dieu. Et pourtant, Dieu a tout fait pour que nous puissions l'être. Par son fils Jésus, il nous a révélé quel était son plan parfait. Il nous a fait connaître son cœur et ses désirs. Il nous a révélé tout plein de choses sur lui et sur comment il fait les choses. Dès lors que nous le connaissons personnellement, que nous sommes ses amis, nous ne faisons plus rien par obligation. Nous faisons parce que nous voyons faire celui que nous aimons. En le voyant tout faire le premier, Nous ressentons son amour infini pour nous et nous voulons faire comme lui, parce que nous l'aimons. Et ce qui est chouette avec notre foi, c'est qu'elle est basée sur une relation avec Dieu. Or, une relation ne fait que grandir quand on l'entretient. Donc Dieu peut toujours nous révéler des nouvelles choses sur qui il est, sur ce qu'il aime et ce qu'il fait. Et ces révélations sont ce qui peut nous faire avancer toujours plus dans le chemin de la sanctification. Ce sont des éléments qui nous permettent d'être toujours plus intimes avec Dieu et d'être toujours plus comme Christ. Nous pouvons tous être appelés amis de Dieu. Nous n'avons qu'à obéir à ce qu'il nous commande et continuer d'apprendre à le connaître, à connaître son cœur et ses commandements. Passons maintenant au deuxième exemple, celui de Rahab. Donc, dans Jacques 22, du verset 24 à 25, il est écrit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» Encore une fois, je vais vous raconter l'histoire de Rahab. Alors, avant qu'Israël attaque Jéricho, Josué envoie deux espions pour explorer la ville. La présence des deux espions est assez vite repérée, mais Rahab, une prostituée de cette ville, les protège en les cachant et les faisant fuir par un chemin sûr. Pour comprendre un peu mieux qui est cette Rahab, j'aimerais répondre à cette question. Comment Rahab était-elle vue aux yeux des hommes ? Rahab était une prostituée, une femme pécheresse qui fait le mal, qui a une vie de débauchée. Aux yeux des autres, elle faisait très probablement tout moins bien que les autres. Pour sa famille, elle était une déception, un déshonneur, une femme prostituée. Et elle n'avait pas d'avenir. Une femme prostituée ne plaira à aucun homme pour qu'il la marie. Elle n'aura sûrement jamais de famille à elle, jamais de mari. Et pourtant, elle a fait une intéressante rencontre avec Dieu. En quoi est-ce que sa rencontre est intéressante ? Je trouve très intéressant parce que Rahab n'a pas rencontré Dieu personnellement. Elle n'a pas vu ses miracles elle-même. Elle en a entendu parler, comme beaucoup d'autres de Jéricho. Dans Josué 2, du verset 9 au 11, 8 à 11 du coup, il est écrit « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays ». La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. » Juste parce qu'elle a entendu, elle a reconnu que leur Dieu était le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, l'unique et le seul Dieu. Mais plus que de simplement craindre et croire au Dieu d'Israël, l'unique vrai Dieu et le plus puissant, elle a agi en conséquence face à sa foi. Elle a choisi d'aider les espions, elle a choisi d'abandonner son peuple, de le trahir même, au profit du peuple d'Israël. Elle a choisi son camp. Elle a abandonné des amis, des voisins, parce qu'elle avait compris ce qui la sauverait, elle et toute sa famille. Maintenant, si les œuvres de Rahab n'avaient pas été en accord avec sa foi, que se serait-il passé ? Eh bien, très certainement, elle et les membres de sa famille auraient été massacrés avec le reste de Jéricho. Mais plus encore, son action a permis à Dieu de changer drastiquement la vie de Rahab. Alors qu'est-ce que Rahab devient après sa rencontre avec Dieu ? Alors que Rahab était un déshonneur, une honte, une déception pour sa famille, elle est devenue une héroïne. Elle est devenue la source de bénédiction pour toute sa famille grâce à ses décisions. Elle a lâché tout son peuple pour sauver sa famille. Alors qu'elle était sans avenir, elle est devenue une femme heureuse et accomplie. Elle qui n'avait pas de famille a trouvé un mari hébreu qui lui a donné une famille. Elle a eu un fils, Boaz, qui était un croyant modèle. Vous pouvez apprendre plus sur Boaz dans l'histoire de Ruth. Et plus encore, elle a été une bénédiction pour la terre entière. Dans la généalogie de Jésus dans Matthieu, on peut voir que Rahab était une ancêtre de Jésus. Elle a donc participé à ce que Jésus arrive et à bénir toute la terre. Et nous ? Est-ce que Dieu nous demande parfois à nous aussi de prendre une décision aussi dure que celle de Rahab a dû prendre, celle d'abandonner, de lâcher, de trahir nos proches ? Jacques 2, 26, donc le dernier verset de mon passage, dit que « comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Avec les exemples que nous avons vus de Abraham et Rahab, qu'est-ce qu'on apprend que notre foi implique ? Elle implique que nous avancions, vivions, agissions avec l'assurance que ce que Dieu a dit, il le fera. Elle implique que nous prenions conscience que ce que nous avons reçu de Dieu n'est que grâce et qu'il a le droit de nous le reprendre à tout moment. Elle implique de devoir choisir notre camp et de parfois devoir trahir des amis. Elle implique que nous obéissions aux commandements de Dieu. Et si nous ne faisons pas ses œuvres, notre foi est morte. Mais n'oubliez pas, notre foi en action nous permet également d'être appelés amis de Dieu. Et n'est-ce pas une récompense gratifiante ? N'est-ce pas quelque chose qui suffirait à nous motiver ? J'ai envie d'être appelée amie de Dieu. Je veux vous donner un petit rappel de vérités importantes dans lesquelles nous pouvons placer notre foi, des vérités qui ressortent de ce passage. Nous croyons que Dieu tient ses promesses. Nous croyons que Dieu sait ce qu'il fait et il le fait bien. Nous croyons que Dieu connaît le meilleur pour nous. Nous croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous croyons que Dieu ne pose pas le même regard sur nous que les hommes. Nous croyons que Dieu ne s'inquiète pas de notre mauvais passé. Ce qui l'importe, c'est notre décision d'aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu est vainqueur. Allons-nous choisir notre camp, son camp, comme Rahab ? Allons-nous vivre notre foi jusqu'au bout comme Abraham ? Pour conclure, je vais vous poser quelques questions et je vous invite à y réfléchir, à vous poser devant Dieu, poser ces questions à Dieu et écouter sa réponse. Et si vous voulez après, élever votre voix ou prier tout simplement dans vos têtes vers Dieu, faites-le, sentez-vous libre. Comment allons-nous vivre notre foi aujourd'hui ? Vivons-nous en accord avec notre foi ? Qu'est-ce que Dieu nous demande que nous ne faisons pas ou que nous ne faisons pas encore ?